Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
À la suite d'un orage de fin du monde, New York est envahi par des djinns, des petites créatures merveilleuses, espiègles et destructrices qui entrent chaque millénaire en contact avec les humains. Les djinns aiment tellement notre planète qu'ils trouvent qu'il faut en débarrasser les hommes. Peu d'hommes peuvent lutter contre les djinns, à la notable exception des descendants d'Averroès et de la princesse Jean Dunia. Voici l'argument du dernier roman de Salman Rushdie qui vient d'être publié en français, traduit par Gérard Medal. 2 ans, 8 mois et 28 nuits. Bonjour Salman Rushdie.
Bonjour.
Dans ce roman, il y a tout d'abord une évocation, celle d'Averroès. Averroès, vous l'appelez d'un autre nom, Ibn Rushd. Ibn Rushd, on dirait que c'est Rushdie.
Yes, you know, my father was a great admirer.
Oui, mon père était un grand admirateur d'Ibn Rushd. Et à un certain moment, il a changé le nom de notre famille pour que ça devienne Rushdie en son honneur. Évidemment, ça m'a beaucoup intéressé. Et je me suis dit que j'allais écrire sur ce personnage un jour. Mais je ne savais pas qu'il allait tomber amoureux d'une fée, d'une princesse.
Il y a effectivement beaucoup de philosophie, beaucoup d'amour charnel. Dans ce livre que vous publiez, Salman Rushdie, vous mettez donc en scène Averroès, ce grand théologien musulman du XIIe siècle. Vous le mettez en scène également avec son ennemi préféré, autrement dit avec Al-Ghazali. Et on a là une sorte de lutte entre deux tendances de l'islam. Un islam qui serait rigoriste et un autre beaucoup plus rationaliste, peut-être beaucoup plus ouvert.
Yeah, and I mean, in a way, it's not really only about Islam.
De fait, il ne s'agit pas simplement de l'islam, il s'agit de l'idée de raison et de déraison et ce qui se produit lorsqu'il y a querelle entre les deux. À l'évidence, il y a des échos avec l'époque contemporaine. Je voulais écrire un roman contemporain. Donc c'est un petit peu comme un conte de fées sur l'époque actuelle.
Mais
je crois que ça élargit un petit peu le débat par rapport à ce que l'on entend dans l'actualité. On arrive à un conflit plus universel entre le rationnel et l'irrationnel.
Avec effectivement une patte qui est la vôtre, que vous poursuivez depuis L'Enchanteur de Florence, depuis Les Enfants de Minuit, où vous mêlez des éléments qui sont des éléments extrêmement réalistes, liés à l'histoire. Je l'ai dit par exemple avec Averroès et Al-Ghazali, mais aussi des choses beaucoup plus merveilleuses. En fait, on parle de réalisme magique. Est-ce que c'est un qualificatif qui convient à votre littérature, Salman Rushdie?
Well, I mean, the phrase is normally used about Latin American writers.
L'expression est surtout utilisée lorsque l'on parle d'écrivains d'Amérique latine.
Pour Garcia Marquez.
En France, il y a le surréalisme, qui est presque la même chose. Et moi, il m'apparaît que lorsque l'on utilise ce terme de réalisme magique, eh bien, on n'entend que l'adjectif magique. On n'entend pas le substantif réalisme, alors que le secret de ce type d'écriture, c'est de permettre aux surréalistes d'émerger du réel. Dans ce livre, je pense qu'il y a un portrait assez réaliste de la ville de New York, là où se passe la plus grande partie du récit, et tout ce qui est fantastique, tout ce qui est magique, sort de ce portrait réaliste.
L'un des personnages principaux de votre livre, Geronimo, décolle du sol. C'est vous ?
I wish, you know,
j'aimerais bien. Je voudrais pouvoir faire de la lévitation. Mais M. Geronimo, c'était le premier personnage qui m'est venu en premier. Voilà un homme, il est jardinier. Son travail, c'est de travailler la terre et de faire pousser des plantes. Et je me suis dit qu'un homme comme ça devient détaché du sol, peut s'élever à quelques centimètres. C'est à la fois triste et drôle.
And sad and funny is good.
Et c'est bien, triste et drôle.
Et c'est effectivement un livre assez drôle, assez picaresque, qui est plein de petits clins d'œil. Par exemple, vous dites que ce monsieur est jardinier, qu'il cultive son jardin, ça nous rappelle un peu Voltaire, peut-être Candide.
Well, you know, it's a kind of, in a way, it's an opposite to Voltaire.
En fait, c'est un petit peu l'autre image de Voltaire, parce que dans Candide, lorsque l'on dit il faut cultiver son jardin, eh bien, c'est du désespoir qui est exprimé là.
After many vicissitudes, many
il y a eu de nombreuses vicissitudes et de difficultés, c'est tout ce qu'il reste à faire, cultiver son jardin. Mais moi, je me suis dit qu'on pourrait retourner la chose. Cultiver le jardin, c'est aussi nourrir la terre, veiller à la terre et être créatif, productif. Donc je me suis dit que c'était une réinterprétation de Voltaire, mais de façon un petit peu moins pessimiste.
Avec, effectivement, là aussi un autre clin d'œil, beaucoup de vos personnages, les descendants de Jean, n'ont pas de lobe d'oreille, ce qui nous rappelle, là aussi, la dynastie des Habsbourg qui était représentée sans lobe d'oreille.
Yeah, that's where I stole it from.
Oui, appelons ça du plagiat. Mais je voulais un élément permettant d'identifier ces êtres humains qui sont les descendants des djinns et qui sont empreints un peu de magie. La façon la plus facile de les remarquer, c'est les lobes d'oreilles ou leur absence. On peut le faire tous les jours avec tout le monde.
Mais ces descendants de djinns, finalement, qui peuplent votre roman, avec une infinité d'histoires, avec des histoires derrière les histoires, quand on reconnaît ou croit reconnaître Voltaire, on se dit finalement que cela incarne la littérature qui est faite de milliers de petits djinns, puisque votre manière d'écrire, Salman Rushdie, est une manière qui intègre une culture très vaste. Là, il y a une référence explicite au Mille et une Nuits, mais il y a aussi toutes sortes de références à la littérature mondiale, européenne, latino-américaine. On parlait de Marquez tout à l'heure.
Yeah, I mean, I one of the things I thought is to take
oui, entre autres, je voulais m'emparer de la tradition orientale du fantastique et la mettre en collision avec la tradition occidentale du surréaliste et du fabuleux pour voir un petit peu ce qui se passe. Ce livre en est le résultat. Je crois vraiment qu'il y a deux façons d'écrire un bon livre. D'abord, on pourrait écrire sur quelque chose de très simple, une histoire toute simple, et sinon, on essaye d'écrire sur tout. Et moi, pour ce livre-là, je suis dans la deuxième catégorie.
Une histoire très simple, c'est par exemple Madame Bovary. On peut encore écrire Madame Bovary, Salman Rushdie?
Well, I mean, if you're Flaubert, it's possible.
Si on s'appelle Flaubert, oui, pourquoi pas.
More difficult if you're not.
Mais en termes de lien avec le monde, puisque justement...
Well, what I do think is that the world is not... so tidy anymore.
Le monde n'est pas aussi polissé, clair qu'avant. À l'époque de Flaubert, on pouvait raconter une histoire qui se passe dans un petit village, une petite ville, et décrire la vie des personnages de cette façon. Aujourd'hui, tout est lié à tout. Le monde vous arrive où que vous soyez. On est un petit peu envahi par le monde. Et comment raconter cette histoire-là? Comment raconter une histoire où l'intimité d'un individu à un endroit est constamment touchée par des événements qui ont lieu à des milliers de kilomètres? Des gens qui ne connaissent même pas viennent dans leur vie.
Vous incarnez précisément cette forme d'écriture mondiale, puisque, on l'a dit, vous concentrez en vous un grand nombre de traditions et de références, et vous avez choisi d'écrire en anglais alors que votre langue maternelle est l'ourdou, Salman Rushdie, et cet anglais, c'est finalement la langue de l'universel, pas la langue du colonisateur.
You know, I'm just better in English.
Non, je parle mieux anglais, j'écris mieux en anglais. Point, c'est tout.
I was saying to you, I used to write letters to my mother in Urdu, and she would write back and tell me how bad my Urdu was.
Quand j'écrivais à ma mère en Urdu, elle me répondait que mon Urdu n'était pas du tout au point. Bref, au bout du compte, c'est la langue qui vous choisit.
And of course, I mean, English is
bien entendu l'angle que l'on peut avoir grâce à l'anglais est absolument formidable. L'anglais est en position de domination linguistique aujourd'hui, mais c'est pas pour ça que j'écris en anglais. C'est la langue qui est à ma disposition, c'est tout.
Comment avez-vous écrit ce livre? Vous l'avez écrit pendant 4 ans, une longue période. Vous y prévoyez un certain nombre d'événements qui se réalisent aujourd'hui, j'allais dire malheureusement. Vous avez été prophétique, par exemple, sur Daesh, alors même qu'au moment où vous avez entamé 2 ans, 8 mois et 28 nuits, il n'était pas encore question de Daesh, Salman Rushdie.
That's right. No, I mean, I'm getting a little depressed by the tendency of my books to come true.
Malheureusement, là, mes livres.
Même si vous restez quand même assez joyeux dans votre
histoire. C'est assez prophétique et j'en suis triste. J'essaye d'écrire de la fiction, mais c'est le monde qui prévaut. Nous vivons à une époque de terribles conflits et je voulais mettre cela en scène et je ne me rendais pas compte à quel point toute cette tragédie verrait le jour.
Est-ce que vous pensez que les rationalistes, le camp dont vous faites partie, ce camp que vous défendez, les rationalistes de l'imagination, ce qui est là aussi une collision un peu étrange, est-ce qu'ils ont perdu, est-ce qu'ils sont en train de perdre?
Well, I mean, you know, I think nobody who is a novelist and nobody who writes a novel like this,
aucun romancier et aucune personne qui écrit un roman comme celui-ci peut être totalement rationaliste, à mon avis. Il y a un élément dans ce roman qui est tout à fait dans le fantastique et qui a très peu à voir avec la raison. Mais en exergue, Goya dit, lorsque l'on combine la raison et le fantastique, eh bien cela crée des merveilles. Parents de l'art, par exemple. Et lorsqu'ils sont séparés l'un de l'autre, eh bien c'est là que les ennuis commencent. Et bien entendu, nous vivons à une époque où il y a ces ennuis. Il y a des monstres, et par conséquent, il y a des monstres dans mon livre, ce n'est pas un hasard.
Mais vous êtes beaucoup plus proche du merveilleux des Mille et Une Nuits que du merveilleux, par exemple, contenu par les textes, dans les textes sacrés, qu'il s'agisse de la Bible ou du Coran.
Oui, en réalité, les textes sacrés ne m'intéressent que très très peu. Mais toute littérature a puisé ses racines dans les textes sacrés pour s'éloigner ultérieurement. Cela dit, les textes sacrés créent plus de problèmes que de bien.
Et puis, il y a également quelque chose de très païen dans ce livre, ou en tout cas de très proche de traditions qui relevaient des arts sexualistes, c'est la place qui occupe la sexualité, la chair, Salman Rushdie.
You know, I think I'm making up for lost time.
Oui, je crois que je rattrape le temps perdu, en fait, parce que dans mes livres précédents, jusqu'à présent, il y a très peu de sexualité. Peut-être qu'il y a une scène dans Les Enfants de Minuit où les grands-parents du personnage principal ont une nuit de noces que je dépeins, bon. Et sinon, il y a une scène dans un autre roman où le narrateur est terriblement gêné lorsqu'il parle de la première fois que ses parents ont fait l'amour, parce qu'évidemment, on sait que ses parents n'ont jamais fait l'amour. Mais en réalité, il n'y a pas de sexualité dans mon œuvre à part ça. Dans ce livre-ci, il y en a. Et j'ai voulu que la sexualité ait un ressort comique en réalité. La sexualité est utilisée uniquement à des fins comiques et pas du tout à des fins érotiques.
Non, mais il y a peut-être aussi autre chose lorsque, par exemple, vous mettez en scène, je vais lire un extrait de votre ouvrage, quand vous mettez en scène Geronimo, âgé de 22 ans, prendre un verre dans une auberge tenue, je vous lis, par la famille genovaise et fréquentée par des drag queens, des prostituées, des transsexuels. Il ne voulut parler que de sexe et d'amour entre hommes, ce qui horrifia et ravit son neveu de Bombay qui n'avait encore jamais entendu parler de tels sujets. Le fait, par exemple, d'aborder ce type de thème est aujourd'hui aussi une forme de prise de position politique.
Oui,
à un moment dans le livre, M. Geronimo arrive de Bombay, il arrive à New York, et on est au début du mouvement de la Gay Pride, là. Et bien qu'il soit hétéro, son oncle est homo et il participe un petit peu à ce mouvement. Et c'est intéressant pour moi de dépeindre ça. C'est un petit passage dans le livre, mais c'est une dimension que j'apporte, oui.
Oui, mais d'un côté, la sexualité est ce qui pose problème aux fanatiques, et dans notre combat contre le fanatisme, qu'il s'agisse de la sexualité homosexuelle, hétérosexuelle, de toutes les sexualités, le fait de les défendre est également une manière de prendre position, Salman Rushdie.
Yeah, I mean, there is something about the fanatic mind,
which is l'esprit du fanatique est très puritain aussi. En effet, il s'oppose non seulement à la sexualité, mais à toute forme de plaisir, comme si le plaisir lui-même constituait l'ennemi. Et ce n'est pas par hasard que certains des attentats en France ont eu lieu où les gens étaient là pour prendre du plaisir. Prenez le Bataclan, par exemple.
Or on the 14 juillet,
ou alors le 14 juillet lorsque les gens sortent pour s'amuser sur la promenade des Anglais. Donc si l'ennemi est le plaisir, eh bien la défense, ça doit être le plaisir aussi. Donc ce livre est une espèce de célébration de toutes les formes de plaisir.
C'est pour ça que vous avez décidé d'écrire un conte immoral, Salman Rushdie ?
Well, it's not exactly moral.
Non, conte pas tout à fait moral. Je crois que c'est un conte un peu immoral, je l'espère en tout cas. C'est mieux, c'est mieux.
Oui, un conte immoral, absolument. Nous sommes tout à fait d'accord.
Well, what I like is,
je vous rassure.
The use of the fable, the traditional use of the fable is moral.
L'usage traditionnel de la fable est d'ordre moral. C'est les fables d'Ésope. Il y a toujours une morale. Ne soyez pas avare, soyez gentil, soyez généreux, ainsi de suite, un peu comme les fables de La Fontaine. Mais si vous retirez cet élément didactique, et bien ça s'améliore, non ? À ce moment-là, on a la fable, mais sans l'aspect didactique. Moi, j'aime pas les livres ou les textes qui m'expliquent ce que je dois faire. Moi, j'aime bien les livres qui me font réfléchir, mais j'aime pas les textes qui me disent ce que je dois faire ou ce que je dois penser.
Et puis, il y a aussi une nécessité pratique dans le fait de raconter des histoires, dans votre dernier roman, Salman Rushdie, tout simplement parce que le narrateur doit raconter des histoires pour modérer les ardeurs de sa jeune épouse.
Yes, that's true. Although you have
oui,
to remember about
c'est vrai.
The young wife.
Mais s'agissant de cette jeune épouse, étant donné que c'est un être surnaturel, elle a des centaines, elle est très très âgée, elle a plus de 100 000 ans, et lui il est très jeune, il n'a que 65 ans.
En dehors de cette jeune épouse, est-ce qu'il reste un appétit pour les histoires dans notre monde, Salman Rushdie ? Ah oui,
je crois que les gens adorent les histoires. Et parfois, je m'inquiète lorsque je vois de la littérature qui n'est plus narrative. En effet, je pense qu'un bon récit constitue le moteur de l'œuvre. Et je me dis que si on construit une grosse voiture, il faut un gros moteur. Et le récit, eh bien, c'est ça, c'est le moteur. Et pour moi, il est important de trouver une bonne histoire à raconter et il faut que je la raconte avec le plus d'enthousiasme que possible.
Comme il s'agit d'une histoire assez ample pour ce dernier roman, Salman Rushdie, comment écrivez-vous ? Quelle est la technique que vous suivez pour réussir à faire s'imbriquer les unes dans les autres toutes ces histoires qui constituent votre grand récit ?
C'est différent à chaque fois. Parfois, on saisit le récit d'emblée. Parfois, on ne saisit que deux ou trois personnages et le récit vient ensuite. S'agissant de ce livre-là, j'avais de nombreuses histoires à raconter. Et je le savais assez tôt. Mais comment les faire interagir entre elles ? C'était ça le problème. Comment les tisser les unes avec les autres ? Ça m'a pris à peu près un an pour résoudre ce problème. Par la suite, ça a été un véritable plaisir que de mettre les mots les uns derrière les autres. Une fois que l'on sait ce qu'on fait, c'est très agréable à l'écriture.
Et l'autre élément qu'on retrouve dans tous vos livres, Salman Rushdie, c'est le côté à la fois érudit populaire, parce que vous mettez à la portée du grand nombre un certain nombre de connaissances qui sont des connaissances assez pointues. Est-ce que cela signifie que vous songez à un lecteur en vous disant « il faut que j'ai l'intelligence et la plume généreuse. »
Oui, je dois avoir un lecteur en tête, j'imagine, mais je crois que ce lecteur, c'est moi. Je ne sais pas comment imaginer le lecteur générique, parce que ça n'existe pas. C'est difficile de savoir comment écrire spécifiquement pour ces lecteurs. Moi, j'essaye d'inclure des éléments populaires et puis un peu d'érudition aussi, parce que le roman est une forme qui exprime la vie des gens. Donc il faut savoir ce à quoi pensent les gens, les films qu'ils vont voir, les livres qu'ils lisent. C'est important de savoir ça.
2 ans, 8 mois et 28 nuits, c'est votre dernier livre, Salman Rushdie, un livre drôle, érudit, facétieux, une sorte de satire du monde moderne et un livre finalement résolument optimiste sur les pouvoirs de l'imagination, de la littérature, sur la capacité que les hommes ont de faire face au fanatisme et finalement de repousser la peur. On continue à l'évoquer vers 8h15